et appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans un instant, comme tous les matins. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité, vous connaissez le principe. S'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, eh bien surtout, n'hésitez pas, appelez-nous ici à Paris et surtout n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. D'ailleurs, on a besoin de connaître évidemment vos questions avant de commencer l'émission pour pouvoir contacter tout simplement nos envoyés spéciaux, nos correspondants, nos experts au sein de la rédaction. 33 9 693 693 70, et vous pouvez également nous rejoindre via les réseaux sociaux et notamment la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Et puis dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat. Nous parlerons tout à l'heure de la polygamie. Faut-il légaliser cette pratique? La question défraie en ce moment la chronique en Guinée, car si elle est interdite par la loi, eh bien la polygamie est très répandue. Récemment, le mariage du chef de file de l'opposition, Sélouda Alain Diallo, avec une deuxième femme, a d'ailleurs alimenté le débat. Du coup, plusieurs voix demandent à réviser le code civil. Le code civil est actuellement, sera dans les prochains mois étudié, examiné à l'Assemblée nationale, et certains disent, eh bien profitons de l'occasion pour adapter la loi aux réalités socioculturelles du pays. Le président de la majorité présidentielle au Parlement, qui est lui-même polygame, affirme que la loi est désuète dans la mesure où elle n'est pas appliquée depuis 50 ans. On a envie de vous entendre évidemment sur cette question. Vos réactions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Mais d'abord donc, vos questions. Des questions d'abord sur la lutte contre le terrorisme en Afrique du Sud. Bonjour Chabrol.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Pointe-Noire au Congo. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Bon, depuis 2015, l'ambassade américaine à Pretoria a mis en garde le gouvernement sud-africain sur une possible attaque terroriste sur son sol. Et récemment, l'Institut pour les études de sécurité a présenté dans un rapport que la moitié des Sud-Africains partis rejoindre l'État islamique étaient revenus sur les territoires sud-africains et que ces derniers ne présentaient aucun risque. Alors, pourquoi, contrairement à l'ambassade des États-Unis à Pretoria, ce rapport juge que le risque d'attentat causé par les Sud-Africains revenus des LEI sont moins importants?
Oui, l'Afrique du Sud est-elle sous la menace du terrorisme islamiste? Bonjour Alexandra Branjon.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RFI à Johannesburg. Rappelons que selon le gouvernement sud-africain, une centaine de personnes seraient parties rejoindre l'organisation de l'État islamique ces dernières années. Et selon l'Institut des études de sécurité, la moitié d'entre elles seraient rentrées ces 12 derniers mois. Et la question de Chabrol est d'autant plus pertinente qu'on a, c'est vrai, un peu l'impression que l'ambassade américaine et le gouvernement sud-africain n'ont pas forcément la même perception de la menace terroriste.
Alors, il s'agit de deux évaluations hein, des risques en fonction des informations dont chacun dispose et qui ne sont pas forcément contradictoires. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une présence de sympathisants de l'État islamique en Afrique du Sud. L'année dernière, certains responsables religieux ont mis en garde contre la présence de cellules de recrutement, notamment dans la région de Durban. Plusieurs jeunes ont été interpellés ces deux dernières années alors qu'ils cherchaient à s'envoler pour la Syrie. Et certains de ces sympathisants ont été arrêtés avec du matériel douteux. Par exemple, deux frères jumeaux âgés de 24 ans arrêtés en juillet dernier dans la banlieue de Johannesburg et qui sont soupçonnés d'avoir voulu poser des bombes contre l'ambassade des États-Unis et des établissements juifs dans le pays. Vous ajoutez à ça le fait que le pays a des frontières poreuses, que certaines personnes liées à des groupes djihadistes ont résidé dans le pays dans le passé. Par exemple, Samantha Leeway, qui est surnommée la veuve blanche, une veuve d'un des kamikazes de Londres en 2005 et qui est soupçonnée d'avoir eu des liens avec les islamistes en Somalie et qui a vécu en Afrique du Sud. Tout ça fait que il y a en effet un terrain propice à des attaques terroristes sur le territoire sud-africain, d'où la mise en garde des Américains.
Oui, alors que dans son rapport, justement, l'Institut des études de sécurité, même s'il reconnaît tous ces facteurs risques, minimise tout de même la menace.
Alors, minimise, mais ça ne veut pas dire qu'il l'exclut. Les chercheurs de l'Institut, qui ont rencontré une soixantaine de personnes rentrées de Syrie, disent que ces gens n'ont pas forcément le profil ou la motivation pour faire des attentats en Afrique du Sud. Parmi les Sud-Africains qui sont revenus, il y a beaucoup de familles qui voulaient tout simplement vivre dans un État islamique, pas nécessairement combattre, et qui n'étaient pas nécessairement animées d'une haine de l'Occident. Ils ont un profil totalement différent, par exemple, des jeunes Français partis faire le djihad. Autre point de cette étude, selon les chercheurs, ceux qui sont partis en Syrie n'avaient pas d'animosité envers le gouvernement sud-africain. Ils n'étaient pas marginalisés dans leur propre pays, ils venaient de milieux socio-économiques relativement stables. Et donc, pour ces chercheurs, ça réduit la menace d'un attentat sur le territoire sud-africain. Ça ne l'exclut pas, mais ça la réduit.
Chabrol, vous avez une autre question, je crois.
Oui. Est-ce que des mesures ont été prises par le gouvernement sud-africain afin de garantir la sécurité sur son sol?
Alexandra Bronjon.
Écoutez, dans un premier temps, les autorités ont semblé prendre à la légère les mises en garde des autorités américaines, allant jusqu'à dire qu'il n'y avait pas de menace. Cependant, les différentes arrestations dont je parlais, celle des jumeaux par exemple l'année dernière, est la preuve que la police enquête et agit. J'ai rencontré récemment quelqu'un dont un proche était parti en Syrie, en famille, qui voulait rentrer, mais qui n'y arrivait pas. Et la personne avec qui je discutais affirmait que le gouvernement sud-africain ne fait rien pour aider les Sud-Africains qui veulent rentrer et que c'est une façon de garder à l'écart une menace potentielle. Alors, ça n'est que l'avis de cette personne, mais ça montre un petit peu l'état d'esprit, ça pourrait monter l'état d'esprit du gouvernement. Et puis, dernière chose, dans son rapport, l'Institut met en garde contre une seconde vague de retour dans les mois qui viennent, des gens qui seraient forcés de quitter la Syrie parce que l'État islamique perd du terrain et qui pourraient avoir un profil plus radical, des gens susceptibles de recruter ici en Afrique du Sud, voire même de viser les intérêts étrangers dans le pays comme les ambassades. Et donc l'Institut disait le gouvernement va devoir faire attention à cette nouvelle vague de gens qui reviennent.
Oui, menace donc contre les intérêts occidentaux en Afrique du Sud. Merci Alexandra Bronjon. En direct de Johannesburg, merci d'avoir répondu à Chabrol qui nous appelait de Pointe-Noire. 10h17 à Paris, ce sont vos questions à la rédaction des RFI, 33 9 693 693 70. Bonjour Didier.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous écoutez à Kampala, en Ouganda, et vous avez des questions sur l'Iran, frappé hier par une double attaque à Téhéran contre le Parlement et le mausolée de l'imam Khomeini.
Oui, bien, merci Juan. L'Iran a été frappé par double attaque par l'État islamique. C'est la première fois que l'Iran soit frappé par cette attaque. J'aimerais savoir, l'Iran est soupçonné de soutenir le terrorisme. Pourquoi l'État islamique frappe l'Iran au moment où soutient l'État islamique en coulisses?
Ah, alors, ma seconde question alors si vous le permettez, je vous interromps tout de suite, et on est là pour ça évidemment, pour vous expliquer davantage l'actualité qui est très dense. Il y a une petite imprécision dans votre question, mais on est là justement pour vous décrypter l'actualité. Siavosh Ghazi, le correspondant des RFI à Téhéran, est également avec nous en direct. Bonjour Siavosh.
Bonjour.
Je rappelle que 13 personnes ont été tuées hier lors de cette double attaque. C'est vrai que c'est la première fois que l'organisation de l'État islamique s'en prend et cible l'Iran. Expliquez-nous pourquoi l'Iran est la cible désormais de Daesh.
Alors, la question de l'auditeur, je reviens sur cette question, sur le soutien, les accusations de soutien au terrorisme donc contre l'Iran. C'est vrai que certains responsables de pays occidentaux ou de pays arabes affirment régulièrement que l'Iran soutient les groupes terroristes, mais il faut faire la part des choses puisque l'Iran soutient effectivement des groupes qui sont considérés comme terroristes par les États-Unis, par exemple, comme le Hezbollah libanais ou le Hamas palestinien ou le djihad islamique. Mais en revanche, l'Iran combat des groupes comme le groupe État islamique ou le groupe Al-Qaïda, en particulier en Syrie et en Irak. Donc il n'y a pas de lien entre l'Iran, qui est à majorité chiite, et ces groupes qui sont des extrémistes sunnites.
Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant de préciser et de prendre le temps d'expliquer aux auditeurs, c'est que l'Iran est chiite et que l'organisation de l'État islamique est par définition anti-chiite.
Oui, et en plus, l'organisation de l'État islamique considère les chiites comme des infidèles. Et donc, il y a récemment, il y a une vidéo qui a été publiée par cette organisation pour dire qu'ils allaient créer un bain de sang chez les chiites iraniens. Et pour vous donner un chiffre sur l'engagement de l'Iran, qui montre l'engagement de l'Iran en Syrie et en Irak, ces dernières années, plus de 2000 conseillers militaires et volontaires iraniens, mais aussi afghans, soutenus par l'Iran, qui étaient partis combattre aux côtés de l'armée syrienne et de l'armée irakienne, les groupes djihadistes en Syrie et en Irak, ont été tués. Donc c'est un chiffre qui est considérable. Et l'Iran affirme régulièrement que son engagement aux côtés des gouvernements syriens et irakiens va continuer pour combattre et détruire ces deux groupes djihadistes.
Didier, vous avez une autre question?
Oui, la seconde question est de savoir, l'État islamique avait publié une vidéo, comme le correspondant venait de le dire, qui vont perpéter des attentats en Iran. J'aimerais savoir quelles sont les mesures qui ont été prises par l'État iranien pour sécuriser sa population.
Ouais, c'est vrai que l'Iran se savait menacé par des attaques terroristes, Siavosh Ghazi.
Absolument, il y a des mesures qui sont assez discrètes, mais les frontières sont très contrôlées, à la fois à l'ouest de l'Iran, c'est-à-dire côté irakien, mais aussi côté pakistanais et afghan, puisque l'organisation de l'État islamique est installée à la fois en Afghanistan, au Pakistan, mais aussi en Syrie et en Irak. Et des deux côtés, il y a des mesures très discrètes, mais assez fermes qui ont été prises par le gouvernement iranien pour empêcher les infiltrations depuis ces pays en Iran. Selon un chiffre qui a été donné par exemple hier par un responsable iranien, 46 groupes terroristes ont été neutralisés alors qu'ils tentaient d'entrer en Iran ces deux dernières années. Donc c'est un chiffre assez important. Mais il faut savoir que l'Iran, qui est à majorité chiite, qui compte plus de 90% de musulmans chiites, compte également des minorités sunnites, des minorités arabes, kurdes et baloutches, aux frontières du pays. Et certains, comme ça a été révélé par un responsable sécuritaire iranien, membres de ces minorités ont rejoint le groupe État islamique en Syrie, et les 6 assaillants qui ont participé aux attaques d'hier à Téhéran étaient des Iraniens, mais on n'a pas précisé de quelle région ils étaient originaires.
Oui, en tout cas, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'ils soient de nationalité iranienne, puisqu'on se posait des questions dans un premier temps de savoir si ces assaillants étaient iraniens ou des étrangers qui avaient réussi à traverser la frontière. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, correspondant des RFI à Téhéran, en direct pour répondre aux auditeurs des RFI. Didier, bonne journée à Kampala, 10h23 à Paris. Nous poursuivons avec vos questions, encore et toujours, j'ai envie de dire, des questions sur l'accord de Paris, sur le climat. Après la décision, il y a maintenant 8 jours, de Donald Trump de réviser, de retirer son pays de cet accord. Bonjour Alseni.
Bonjour Monsieur Juan.
Vous nous appelez de Conakry. On vous écoute.
Oui. Oh, merci Monsieur Juan. Permettez-moi l'occasion de saluer les auditeurs de RFI et vous précisément sur tout ce que vous faites pour le monde entier. Ma question est de savoir pourquoi n'existe-t-il pas de mécanisme de sanction au sein de l'accord de Paris?
Ah, il est vrai que l'accord sur le climat ne prévoit pas de mécanisme de sanction pour les États signataires. Valérie Cabanès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste en droit international spécialisée dans les droits de l'homme. Je signale que vous avez publié aux éditions Seuil un nouveau droit pour la Terre. Cette question est revenue plusieurs fois au Standard. Expliquez-nous pourquoi l'accord de Paris n'est pas contraignant.
Alors, factuellement, effectivement, les États-Unis, toute la journée de la dernière journée de négociation de l'accord, ont bien fait comprendre qu'ils ne signeraient pas s'il y avait une mention contraignante dans l'accord. Et à 19h37, si je me souviens bien, Laurent Fabius a accepté de changer un châle par un should, ce qui veut dire nous devrions plutôt que nous devons. Et l'accord a été signé de cette manière-là.
Mmh. C'est-à-dire
de façon globale.
C'est-à-dire que si l'accord de Paris prévoyait un mécanisme de sanction, s'il était trop contraignant, les États-Unis auraient refusé de le signer.
Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais il faut bien comprendre que la plupart des grands traités internationaux, des protocoles, sont rarement contraignant. Il demande, si vous voulez, le droit international est une est un droit de diplomatique qui engage les États sur un plan moral autour de valeurs communes et de décisions communes, mais rarement contraignantes. Donc on a à l'heure actuelle un vide juridique en ce qui concerne les décisions à prendre qui ont un impact sur, je dirais, l'avenir global de l'humanité, sur, quand on doit défendre un intérêt supérieur commun qui dépasse la souveraineté des États, on n'est pas en capacité aujourd'hui de contraindre un pays, un chef d'État, de respecter les droits humains partout sur Terre, sauf autour de quatre notions essentielles qui sont inscrites dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui sont effectivement les crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, et le crime d'agression. Mmh. En dehors de cela, on ne peut pas poursuivre un chef d'État pour une menace à l'humanité suite à une décision qu'il prendrait.
Ouais. Ça veut dire quoi, Valérie Cabanès, concrètement, sans sanction, finalement, cet accord de Paris qui a été salué par tout le monde il y a 2 ans, il peut être voué à l'échec. On a vu donc Donald Trump retirer les États-Unis. Ça peut ensuite déclencher un phénomène de boule de neige et d'autres pays dire bah moi aussi, je décide de retirer mon pays. Je décide par exemple de rester, mais de ne pas respecter par exemple les engagements pris à Paris. Personne ne peut contraindre et obliger le chef d'État en question à tenir sa parole.
Oui, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. En fait, il y a deux impacts importants. Le premier, effectivement, c'est ce que vous mentionnez, c'est-à-dire que certains États, regardez Vladimir Poutine qui a annoncé le lendemain de la décision de Trump que, un, il respectait cette décision, et le surlendemain que lui-même ne mettrait pas en application l'accord de Paris avant 2019. Donc déjà, il a reculé. Alors même si l'Inde et la Chine ont expliqué qu'ils étaient prêts à s'engager et même à redoubler d'efforts, on a par exemple des pays africains, le Kenya par exemple, qui a expliqué que ils ne comprenaient plus pourquoi on leur demandait tant d'efforts si les pays les plus pollueurs au monde n'en faisaient plus. Et l'autre impact important, c'est que autant les États-Unis vont mettre effectivement 3 ans à sortir de l'accord, 1 an en plus pour
c'est-à-dire qu'il y a, oui, c'est
le décider de le signer. Voilà. En attendant, si vous voulez, Trump peut décider de bloquer tous les fonds, le fonds vert, qui donc permettait effectivement aux pays les moins avancés d'être aidés dans leur transition énergétique. Donc ça, c'est un impact très grave. Mmh. Et puis son financement directement auprès de la conférence climat, donc la COP23 par exemple, qui va se tenir à Bonn en novembre. Peut être menacé parce que 1/4 du budget de ces conférences était financé par les États-Unis.
Ouais, effectivement. Merci Valérie Cabanès d'avoir pris quelques minutes ce matin, juriste en droit international, spécialisée dans les droits de l'homme. Merci d'avoir répondu à Alceni. On avait d'autres questions de prévues ce matin, mais ne vous inquiétez pas, nous vous rappellerons. Et vous, qui nous écoutez à travers le monde, surtout n'hésitez pas, contactez-nous tout au long de la journée. L'équipe vous attend au standard 33 9 693 693 70 et vous nous envoyez également vos questions sur la page Facebook de l'émission, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone, car le principe de cette émission est de vous entendre en direct sur l'antenne d'RFI, donc on a besoin forcément de vous rappeler. Vous êtes nombreux déjà à patienter au standard et très nombreux sur la page Facebook de l'émission à souhaiter réagir sur cette question qui défraie la chronique en Guinée. Faut-il légaliser la polygamie ? Sur place, elle est interdite, mais elle est fortement pratiquée. On a vu récemment notamment le chef de file de l'opposition, Seloud Alain Diallo, se marié avec une deuxième femme. Le débat a donc été alimenté sur place. Sur Facebook, par exemple, Tidiane nous dit « Mais cette loi vieille de 50 ans n'a jamais été respectée et ne le sera jamais, car la polygamie est autorisée par la religion musulmane et la Guinée est un pays musulman. Mon père, nous dit, avait 4 femmes et je compte bien en faire de même. » conclut Tidiane qui nous écrit de Douala au Cameroun. On en reparle ensemble dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.